France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La France s'apprête donc à replonger dans une crise politique aiguë avec la chute attendue aujourd'hui du gouvernement de François Bayrou lors d'un vote de confiance au Parlement. Laissant le président seul pour assumer sa vision et trouver un nouveau Premier ministre, de quoi replacer donc Emmanuel Macron face à ce dilemme. Persévérer ou dissoudre l'Assemblée, on évoquera les différentes pistes possibles pour tenter de résoudre l'équation. Et puis on en parlera également avec notre invité aujourd'hui. Aujourd'hui, la ministre de la Ville, Juliette Méadel. L'actualité à l'étranger, c'est notamment cette attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est ce matin qui a fait 5 morts et plusieurs blessés, soit l'une des plus meurtrières dans la ville depuis le début de la guerre à Gaza. Enfin, on reviendra sur la vie de celui qui avait signé les plus grands succès du groupe de rock britannique Supertramp. Rick Davies est décédé ce week-end, il était âgé de 81 ans.
Et sur les premières images.
Selon la théogonie, le chaos préexisterait à toute chose et notamment au premier jaillissement de la lumière. Alors peut-être est-ce là au fond une manière de se rassurer quant à la confusion générale extrême dans laquelle la France devrait à nouveau sombrer d'ici quelques heures. À 15h précise, François Bayrou montera à la tribune de l'Assemblée pour engager la responsabilité de son gouvernement et la sentence est a priori d'ores et déjà connue puisque face au veto annoncé à la fois de la gauche et de l'extrême droite, le Premier ministre devrait être contraint de devoir rendre les clés de Matignon, ce qui le cas échéant d'ailleurs constituerait une première sous la 5e République. Reste à savoir désormais si de ce chaos aux allures de tragédie grecque pourrait surgir le commencement même confus d'un État offrant enfin une certaine stabilité. Tous les regards se tournent déjà vers Emmanuel Macron. Beaucoup réclament que le président ne laisse pas s'éterniser cette fois-ci un gouvernement gérant les affaires courantes. Et d'ailleurs, plusieurs dates plaident pour une vacance la plus courte possible, qu'il s'agisse des mobilisations à venir les 10 et 18 septembre, de même que la décision attendue vendredi de l'agence Fitch qui pourrait dégrader davantage la note de la dette française. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Avec la démission annoncée du Premier ministre, c'est bien le président de la République qui va donc se retrouver à présent seul au front avec une équation, Stéphane, qui semble encore compliquée, sinon même impossible à résoudre.
Oui, l'équation est non seulement difficile à résoudre, mais en plus, il y a urgence. Il y a urgence car dans un mois, mi-octobre, il faut que les projets de loi de finances soient sur le bureau de l'Assemblée nationale et que les députés commencent à les examiner. La Constitution prévoit en effet un délai de 70 jours pour l'adoption du budget de l'année prochaine avant le 31 décembre. Or, il est impératif qu'un gouvernement de plein exercice prépare ce budget et le défende devant le Parlement. Emmanuel Macron doit donc rapidement procéder à la réorganisation de l'exécutif en nommant au plus vite un Premier ministre. Et cette opération est délicate car la personnalité qui va entrer à Matignon va devoir résoudre une équation, vous l'avez dit Thomas, très difficile à résoudre. Il n'y a pas de majorité pour voter le budget, il faut donc négocier un accord de non-censure et ça, ce n'est possible qu'avec les députés du groupe socialiste. Il n'est a priori pas possible de nommer un Premier ministre socialiste à Matignon, ainsi que l'a proposé le Premier secrétaire Olivier Faure, car le camp présidentiel perdrait aussitôt le soutien des députés de la droite républicaine, ce qu'ils ont indiqué ce week-end. Il va donc falloir tenter de négocier des dispositions budgétaires qui à la fois satisferont les socialistes sans fâcher la droite républicaine et inversement des dispositions qui répondront aux exigences de la droite républicaine sans fâcher les socialistes, un véritable casse-tête compte tenu de leur divergence sur la gestion des finances publiques. Mais si le prochain gouvernement ne réussit pas à résoudre cette équation, il y aura une nouvelle censure et pour débloquer la situation ne restera alors comme solution que la dissolution, ce qui ajoutera un peu plus encore à l'instabilité et à l'incertitude tant sur le plan politique que sur le plan économique. La tâche du président s'annonce donc complexe. Elle commence dès demain matin. En réalité, elle a déjà commencé car depuis la semaine dernière, Emmanuel Macron consulte pour préparer la suite.
Merci Stéphane Robert. Avant d'en discuter avec notre invité, notons d'ores et déjà que dans ce qui devrait figurer dans son testament, le gouvernement a notamment signé in extremis un décret visant à alléger les cotisations patronales. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Thomas.
Officiellement, l'objectif, Annabelle, est d'inciter les patrons à augmenter les salaires.
Enfin, de ne pas les dissuader de les augmenter, plus justement. Il y a trop de charges et l'argument souvent entendu pour ne pas augmenter les salaires, et particulièrement les salaires que l'on appelle intermédiaires, autour de 2000 et 3000 euros. Le fait est qu'en augmentant les salaires, ce sont souvent les exonérations de charges qui ne s'appliquent plus. Des exonérations qui finissent par devenir ce qu'on appelle des trappes à bas salaire. Alors, lancé en 2024 sous Michel Barnier, le sujet a longuement animé les débats au sein des parlementaires et des syndicats, sans faire réellement consommer consensus à ce jour. Mais la refonte des exonérations salariales a tout de même été votée en début d'année. Et comme prévu par les dispositions du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, il a acté une refonte des allègements généraux des cotisations patronales avec pour objectif de réaliser une économie d'1,6 milliard d'euros. Le décret signé par François Bayrou vendredi vise donc à mettre en place une nouvelle réduction de ces exonérations qui toucherait les salaires au-dessus de 3 SMIC. Les cadres principalement, enfin tous ceux rémunérés au-dessus de 4 000 euros, en seraient les grands perdants au profit des salaires intermédiaires entre 1,4 et 2,8% du SMIC. Pour les bas salaires, les exonérations sont inchangées. Rappelons qu'elles ne datent pas d'hier, mais du gouvernement Balladur entre 93 et 95. Le problème, c'est que la méthode s'est à peu près généralisée à toutes les catégories, au point de peser l'année dernière environ 75 milliards d'euros sur les comptes de la Sécurité sociale et de l'État. Il y a donc eu une première remise à plat l'année dernière, et en voilà donc une deuxième qui prendra effet en janvier 2026, se recentrant une nouvelle fois sur les plus hauts salaires. Si l'on résume à grands traits, le coût du travail va donc augmenter sur tous les emplois de cadres et ingénieurs, principalement là où la concurrence est rude avec les autres pays. Au MEDEF ce matin, pas de réaction officielle. Le patronat réclame depuis longtemps des baisses de charges. Toutes les branches professionnelles qu'il représente ne sont pas pourtant logées à la même enseigne ce matin. Donc les emplois de service, par exemple, y gagnent, mais les entreprises de l'industrie, très clairement, y perdent. L'histoire n'est toutefois pas terminée. Avec un nouveau gouvernement, les débats pourraient repartir de plus belle d'ici la fin de l'année.
Merci Annabelle Grelier. Pour continuer donc d'évoquer cette journée décisive pour le gouvernement, invité de la rédaction à présent, la ministre de la Ville, Juliette Méadel. Bonjour madame.
Bonjour.
Et toujours à mes côtés, Stéphane Robert. Pour vous interroger, est-ce que vous pensez que vous avez encore une petite chance d'être ministre de plein exercice demain matin?
Écoutez, c'est pas vraiment le sujet. L'enjeu, c'est est-ce qu'on arrive à avoir une France qui se stabilise le plus rapidement possible? Parce que vous l'avez rappelé à juste titre, Stéphane Robert, il faut un budget. Et il faut un budget, pas pour la beauté du geste, mais il faut un budget parce que concrètement, s'il n'y a pas de budget, ça se traduit par une période de gel, y compris des décisions qui sont prises. Et puis, je vais vous donner l'exemple de ce que je vois tous les jours dans les quartiers. Quand il n'y a pas de budget, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de soutien pour partir en vacances pour les enfants dont les parents gagnent moins de 750 euros par mois, il n'y a pas d'aide aux devoirs, il n'y a pas d'aide aussi alimentaire, il n'y a pas de projet de rénovation urbaine. Bref, tout s'arrête pendant quelques mois. Et ça peut durer parfois 6 mois. Vous voyez, l'année dernière, le budget avait été voté au Parlement en février. Les crédits qu'on a délégués concrètement dans les territoires, ils ont été délégués au mois de juin. Il y a des gens pour qui c'est énorme. Il y a même des associations qui ont mis la clé sous la porte.
Question de Stéphane Robert.
Nous sommes le 8 septembre. Il faut un budget avant le 15 octobre.
C'est ça.
Il faut le préparer. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'un nouveau gouvernement a le temps de préparer un budget avant mi-octobre?
Écoutez, il faudra bien. Alors, ça ne veut pas dire que si ça n'a pas lieu, tout s'arrête. Hein. Ça veut juste dire que tout sera mis en suspens. Bon, on peut toujours se remettre d'une suspension. Moi, ce que je crois que ce qu'il faut, et c'est ce que le Premier ministre fait en posant la question clé aujourd'hui, c'est qu'on arrive au moins à être d'accord sur le fait qu'il y a un effort financier à réaliser.
On a déjà la réponse.
Ben, la question à laquelle on va répondre ou à laquelle les députés vont répondre, finalement, ne sera pas exactement celle-là. Là, les députés, ils disent, on en a ras-le-bol, on n'est plus d'accord. Mais on n'est plus d'accord sur rien, sauf que l'enjeu, c'est, ok, mais vous voulez faire quoi pour qu'on arrive à répondre à deux conditions essentielles. Un, comment on rétablit le sérieux budgétaire dans notre pays? On peut être de gauche et être favorable au sérieux budgétaire. Vous voyez, on peut dire, moi je l'ai pratiqué, un euro dépensé doit être un euro utile. Deuxièmement, comment on rétablit l'équité fiscale? C'est vrai que quand vous voyez qu'il y a 250 des plus hauts patrimoines de notre pays qui payent deux fois moins d'impôts que tous les autres contribuables, ça pose question quand même. Je crois que sur ces deux points-là, le Premier ministre avait ouvert la discussion. Et si on arrive à répondre à ces deux questions et à mettre autour de la table suffisamment de nos responsables politiques, alors on aura fait un progrès et alors... La séquence un peu sacrificielle dans laquelle on est tous et pour laquelle moi je soutiens pleinement le Premier ministre aura été utile.
Alors précisément comment on fait? Avec qui on discute? Est-ce que, de votre point de vue, un Premier ministre de centre-gauche ou socialiste est souhaitable
pour Matignon? Je sais pas, c'est le Président de la République qui sait ça et l'avis du Premier ministre actuel de François Bayrou sera aussi décisif parce qu'il a pratiqué, il a dialogué avec les uns et les autres. Donc c'est lui qui sait. Je crois que Je crois qu'il faut surtout quelqu'un qui soit pas sectaire, qui accepte de discuter avec ceux avec lesquels il est pas d'accord. Je crois qu'il faut s'éloigner aussi des petites logiques, des partis, des petits jeux tactiques, parce que ça écœure tout le monde, en fait. Faut qu'on ait vite une solution pour avancer, pour résoudre les problèmes de justice fiscale et sociale, et pour surtout être crédible. Quand même, on a une dette aujourd'hui qui coûte tellement cher que chaque couple paye chaque année 2 000 euros juste pour les intérêts de la dette. Faut que ça s'arrête. Moi, je trouve que pour nos enfants, demain, se dire que au fond, le budget de la dette, c'est-à-dire le coût de la dette, c'est l'équivalent du budget de l'éducation nationale. Enfin, c'est comme si on sacrifiait l'avenir. Donc, il y a un moment où ce qu'a fait le Premier ministre, c'était vraiment de dire est-ce qu'on est déjà tous d'accord pour prendre conscience qu'on ne peut plus faire autrement qu'en étant sérieux sur le plan budgétaire.
Bon, la réponse,
et c'est pas un gros mot.
La réponse ce soir sera non, gouvernement renversé. Comment est-ce qu'il est possible, à votre avis, d'arriver à un accord de non-censure avec vos anciens amis socialistes, parce que vous êtes issus de cette famille politique à l'origine?
Je peux pas penser que le Parti socialiste, qui est quand même un parti, c'est le parti de Blum, de Jaurès, puis il y a l'ancien président de la République, hein, aujourd'hui au groupe socialiste. Moi, je peux pas imaginer qu'ils aient pas envie de construire. Et même, quand je regarde leurs déclarations, je crois qu'ils veulent construire une solution pour un accord de non-censure, vous l'avez dit. Maintenant, il restera à mettre sur pied un projet qui ne sacrifie pas l'obligation de sérieux et qui soit quand même suffisamment novateur pour redonner confiance à nos concitoyens sur le fait que l'État doit protéger. Sur le plan social, moi c'est ma priorité, la précarité, les 15% de Français qui vivent autour du seuil de pauvreté, c'est plus possible. Et là-dessus, c'était le mandat que m'a donné François Bayrou en me faisant rentrer dans ce gouvernement. Moi, j'ai accepté parce que je savais qu'il avait cette fibre sociale et que nous avons pu, là, en 9 mois, avoir de vrais résultats sur les conditions de vie dans les quartiers.
À en croire les derniers sondages, près de la moitié des personnes interrogées souhaitent un nouveau locataire à l'Élysée. Quand un tiers seulement réclame la nomination d'un 5e Premier ministre en moins de 2 ans, est-ce que le premier responsable de ce désastre, ça n'est pas le chef de l'État lui-même?
Je sais que c'est la question qu'on aime bien poser sur les sondages pour alimenter les plateaux et faire du récit, quoi. Mais globalement, les Français sont allés voter en 2022, en 2024. Il y a eu donc 2-3 élections de portée nationale, une présidentielle et 2 législatives. Dire à nos concitoyens, à chaque fois qu'on n'arrive pas à faire « Ah ben, il faut revenir aux urnes », ça a quand même un petit côté « On n'est pas bon, on n'y arrive pas, merci de revenir voter », ça fait pas très sérieux, je trouve. Je vous parle même pas des aspects de déstabilisation, hein, parce que ça, on les entend partout. Moi, ça m'interroge sur la compétence des responsables politiques qui en appellent aux urnes. On vous demande votre avis, mesdames et messieurs les citoyens, on vous demande de venir voter, on organise des élections.
Ce qui a été le cas de la dissolution.
Et comme on n'y arrive pas, tous les 6 mois, chaque fois qu'on n'est pas d'accord, l'opposition réclame une élection. Mais alors ça sert à quoi d'aller voter?
Vous craignez là qu'on en arrive là, à une nouvelle dissolution?
C'est la décision du président de la République, ça n'appartient qu'à lui. On a des institutions quand même, avec la 5e, qui sont solides et heureusement. Mais enfin, si chaque opposition, à chaque fois qu'elle n'est pas d'accord et qu'elle n'arrive pas à se mettre d'accord en appel à une élection, c'est quand même immature, vous ne trouvez pas?
On terminera sur cette question. Merci Juliette Méadel, ministre de la Ville, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Stéphane Robert.
Et tandis que les heures du gouvernement Bayrou sont donc comptées, le Rassemblement National continue, lui, de plaider pour une dissolution de l'Assemblée.
Oui, le parti d'extrême droite espère profiter de vents qu'il considère comme favorables, et ce malgré l'inconnue Marine Le Pen. Après sa condamnation dans l'affaire dite des assistants parlementaires européens, la patronne des députés RN est frappée, vous le savez, d'une peine de 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Or, c'est aujourd'hui justement que l'on devrait connaître les dates de son procès en appel, une échéance judiciaire et politique cruciale, notamment dans la perspective de la prochaine présidentielle, bien sûr, mais aussi en cas d'élection législative anticipée.
Midi et 43 minutes sur France Culture, la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Même si les motivations des assaillants n'ont pas encore été précisées, elles ne laissent que peu de place a priori au doute. Ce matin, 5 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées dans une attaque à l'arme à feu sur une station d'autobus à Jérusalem-Est. Les précisions d'Étienne Monin.
Et sur les premières images qui ont circulé, on voit les secours en chasuble jaune qui évacuent des victimes à côté d'un bus gris dont le pare-brise et la porte avant droite ont été touchés par des impacts de balles. Le lieu de l'attaque est un grand nœud autoroutier situé à la sortie de Jérusalem-Est. À hauteur des arrêts de bus, les auteurs du tir ont visé un car bondé d'après un témoin. Ils se seraient fait passer pour des passagers pour pouvoir monter dans le bus. Ils auraient tiré à l'intérieur du véhicule. D'après la presse israélienne, les tireurs sont palestiniens. Ils sont originaires des environs de Ramallah. Ils ont été abattus par un soldat et un civil. Ils étaient armés d'au moins un pistolet automatique artisanal. Dans la foulée, l'armée a lancé une opération près de Ramallah. Le Premier ministre s'est rendu sur le lieu de l'attentat. C'est l'une des attaques les plus meurtrières à Jérusalem depuis le début de la guerre à Gaza. Les victimes ont de 30 à 50 ans. Le Hamas a salué cette attaque dans un communiqué.
Il se trouve qu'hier, le président américain avait annoncé avoir envoyé un dernier avertissement au Hamas pour un retour des otages israéliens détenus dans la bande de Gaza. Le mouvement islamiste s'était dit prêt, pour sa part, à négocier la libération de tous les prisonniers en échange d'une déclaration claire de la fin de la guerre et d'un retrait complet de l'enclave palestinienne. En revanche, loin de garantir un quelconque cessez-le-feu, le ministre israélien de la Défense a lui préféré sommer ce matin encore les combattants du Hamas de se rendre ou d'être anéantis. Et puis à cela s'ajoutent les opérations sur le terrain qui continue de s'intensifier, ne laissant guère d'autre alternative à la population condamnée que la souffrance ou la mort. Et c'est donc dans ce contexte que ce matin, le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a appelé la communauté internationale à prévenir un génocide dans ce cimetière qui est devenu le territoire palestinien. Et à ce titre, aujourd'hui même, l'Espagne a, elle, décidé non seulement de renforcer ses restrictions aux exportations d'armes vers l'État hébreu, mais aussi d'interdire l'entrée sur son territoire à toute personne ayant participé directement à ce que le Premier ministre Pedro Sanchez qualifie lui aussi de génocide. C'est une correspondance à Madrid signée Mathieu de Teillac.
Le chef du gouvernement espagnol a commencé son allocution par des précautions oratoires. L'Espagne est consciente des souffrances historiques du peuple juif, a-t-il dit, en particulier de l'Holocauste, une manière sans doute de désamorcer les accusations d'antisémitisme des autorités israéliennes. Pedro Sanchez.
El gobierno de España y el conjunto de la sociedad española ha condenado desde
Le gouvernement espagnol et l'ensemble de la société espagnole a condamné dès le premier jour les attentats terroristes et les enlèvements commis par le Hamas. Mais c'est une chose de protéger son pays, de protéger sa société, et une autre très différente de bombarder des hôpitaux, de tuer par la faim des enfants innocents. Une attaque que le rapporteur spécial des Nations Unies et la majorité des experts qualifient désormais de génocide.
C'est la première fois que Pedro Sanchez emploie lui-même le terme de génocide, même en mettant le mot dans la bouche d'observateurs extérieurs. Il a ensuite énoncé une liste de 9 mesures prises contre le gouvernement israélien et en faveur de la population palestinienne, l'interdiction par décret des ventes et achats d'armes à Israël, l'interdiction du transit par les ports espagnols des bateaux transportant du combustible et du survol de l'espace aérien par les avions transportant des armes à destination d'Israël, le refus d'admettre sur le sol espagnol toute personne ayant commis des crimes de guerre à Gaza, ou encore le boycott de biens produits dans les colonies et le renforcement de l'aide humanitaire apportée aux Palestiniens.
La nuit a été calme en Ukraine.
Ce qui ne préjuge en rien d'une quelconque volonté d'apaisement de la part du Kremlin. 24 heures plus tôt, rappelons que l'armée de l'envahisseur a lancé son attaque de drones et de missiles la plus massive depuis le début de la guerre. Plus de 800 engins de mort au total, frappant pour la première fois le siège du gouvernement à Kiev. Une stratégie de la terreur condamnée par le président américain Donald Trump, lequel s'est dit prêt à lancer une nouvelle phase de sanctions contre la Russie. Il était décrit comme le cœur battant du groupe grâce à sa voix, bien sûr, mais aussi le son tellement caractéristique de son clavier électrique. On l'a appris ce matin, Rick Davies, donc le chanteur cofondateur du groupe de rock progressif Supertramp, est décédé samedi dernier à l'âge de 81 ans. Des suites d'une longue maladie, il avait composé nombre des succès planétaires de ce groupe britannique emblématique des années 70-80. Son portrait est signé Louis-Valentin Lopez.
Pour ses 8 ans, ses parents lui offrent un tourne-disque. C'est le déclic pour le petit Richard Davies, dit Rick, né en 1944 dans un milieu ouvrier, à Swindon, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Il vivra de sa musique. Pour ça, Rick Davies rejoint des groupes, Vince and the Vigilantes, The Lonely Ones, mais c'est en 69 que l'alchimie opère, avec Supertramp, comprendre Super Vagabond. « Les débuts sont un peu tâtonnants. Il faut attendre 79 pour que Supertramp explose. L'album Breakfast in America, qui s'arrache à plus de 20 millions d'exemplaires, porté par des hymnes comme The Logical Song, avec son piano électrique Wurlitzer et ses castagnettes. Le public devient addict à la recette, mélange savoureux entre sonorités californiennes et pop anglaise héritées des Beatles. Mais la lune de miel ne dure pas. En cause, des tensions entre Rick Davies et Roger Hodgson, auteurs des principaux tubes du groupe. Supertramp qui continue, sans Hodgson, le succès à la fois critique et commercial ne sera plus jamais le même. Mais la musique de Rick Davies continuera d'inspirer. Les grandes chansons ne meurent jamais, elles perdurent, écrit aujourd'hui le groupe dans un communiqué.
Ouais, c'est donc sur la musique de Supertramp qu'on termine avec un mot du temps pour cet après-midi. De belles éclaircies sur un large quart nord-ouest, partout ailleurs en revanche nuages et précipitations. Quant aux températures, elles afficheront entre 17 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Pommet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.